Bienvenue à Parlons des cancers du sang, un balado de la Société Leucémie et Lymphome du Canada. Ce balado relie des personnes qui sont touchées par un cancer du sang à des ressources qui informent, soutiennent, éduquent et responsabilisent. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu, puis il n'y a pas de réponse facile. On est là pour vous apporter les informations dont vous avez besoin pour vous aider à comprendre chaque étape de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Stéphanie et je serai votre hôte invitée pour l'épisode d'aujourd'hui. En octobre 2019, donc un peu avant mes 25 ans, j'ai appris que j'étais atteinte d'un lymphome Hodgkinien stade 2. Aujourd'hui, quelques mois sont passés depuis mon dernier traitement de chimiothérapie et je suis officiellement sur la voie de la rémission, tout comme notre invitée d'aujourd'hui, Mélissa Morin, une jeune professionnelle de la santé. En 2017, elle a reçu un diagnostic de lymphome Hodgkinien stade 4. Conjointe et maman de deux enfants, Mélissa a rencontré certains défis en lien avec la maladie. Aujourd'hui, elle va nous parler de son expérience, plus spécifiquement en lien avec la maternité et la fertilité. Bonjour Mélissa, c'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu?
Ça va bien, salut Stéphanie, merci de me recevoir.
Merci à toi. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi en commençant par l'annonce de ton diagnostic?
Bien sûr, en 2017, donc le 1er juillet 2017, j'ai été diagnostiquée avec un cancer, un lymphome Hodgkinien de stade 4 au niveau du sternum qui s'était répandu sur le poumon. À ce moment-là, j'avais 29 ans. Je venais tout juste de retourner sur le marché du travail après mon congé de maternité. Mon petit garçon, mon plus jeune avait un an et demi et mon plus vieux avait 3 ans. À ce moment-là, j'habitais en Alberta. Et puis, toute ma famille était au Québec et la famille de mon conjoint était en Colombie-Britannique. Donc, ça a été un petit choc d'apprendre tout ça. Puis après ça, j'ai eu 6 mois de traitement de chimio. Et par la suite, en décembre, le cancer était toujours là après les 6 mois de chimio. On avait quand même éliminé beaucoup, mais il restait 5% du cancer qui était encore là. Donc, mon médecin a décidé de faire la greffe autologue, donc la greffe de cellules souches, excuse-moi, mais mes propres sans donneur. Et puis, donc, en mai 2018, j'ai fait la greffe de cellules souches. Et puis, en août 2018, c'est là que j'ai eu mon scan après les traitements de chimio, de greffe. Et puis, le cancer était parti. Donc, que depuis été 2018, je suis maintenant en rémission.
c'est vraiment, ça doit être un soulagement quand on apprend là, que tout est
terminé. Oui, exactement.
C'est vraiment un gros stress qui tombe. Là. À l'époque, tu avais mentionné que tu avais 2 bébés. Donc, ben, 2 bébés. À 3 ans, c'est plus des bébés. Là. 3 ans et 1 an et demi. Est-ce qu'il avait conscience de ce qui se passait? Est-ce qu'il était un peu sans, peut-être à 1 an et demi moins, mais celui de 3 ans, avait-tu une idée là, de ce qui se passait avec sa maman? Ou?
Il savait que j'étais malade parce que, dans le fond, quand j'ai été diagnostiquée, c'est suite à un abcès pulmonaire. Donc, j'étais à l'hôpital, puis on passait des tests et tout. Donc, lui, c'était plus le fait que j'étais absente de la maison. Puis, il venait me visiter à l'hôpital à tous les jours, mais je pense que à part le fait de savoir que j'étais malade, nous, on avait un beau livre qui expliquait aux enfants aussi, mais maintenant, je lui ai demandé la semaine passée s'il s'en rappelait quand maman était malade. Puis, maman, t'as été malade, toi, quand ça? Je lui ai dit, ben oui, la fois que t'es allée chez ton oncle. Ah, ben oui, c'est vrai. Mais tu sais, je pense pas que maintenant, il s'en rappelle. C'est juste que ça l'avait dérouté un peu la routine parce que j'étais pas à la maison j'étais hospitalisée pendant environ 2 mois. Donc, c'est plus le fait que j'étais absente pour une certaine raison, mais il savait pas nécessairement que c'était parce que j'avais un cancer. C'est ça. Donc, et le plus jeune, je pense pas, là. C'est la même chose aussi. La routine était un peu déroutée, puis là, on se voyait à l'hôpital, je venais un petit peu à la maison, on skypait pendant qu'il mangeait le déjeuner, mais à part ça, non, pas, je penserais pas.
Okay. Tu viens juste de parler d'un livre, puis je me souviens la dernière fois qu'on s'était parlé, je pense que le titre du livre, ça se peut-tu, c'était « Cancer 8 Kisses » ou…
Oui, c'est ça, exactement.
Tu comptais une anecdote comme quoi il donnait des bisous, je sais pas trop.
Oui, là, c'est sûr que j'étais un petit peu… ma mémoire est peut-être pas super bonne de ce moment-là, là. Ben oui, c'est comme il y avait tu vois ta maman pleurer pour certaines raisons, mais le cancer, il aime pas les bisous. Fait que lui donner un bisou, un câlin, ça fait
partir le cancer.
Allait, oui, c'est ça, ça l'éloigne le cancer. Donc, c'est vraiment, vraiment cute.
C'est vraiment...
Effectivement.
Fait que pour ceux et celles, les auditeurs, là, je pense que le titre, c'est Cancer Aids Kisses. Là. Peut-être qu'il y a des versions en français là, qui, avec le temps, se sont...
Oui, je suis pas certaine si... Il y en a, mais c'est un livre très, très... Ça nous a aidé, en tout cas, à amener le sujet aux enfants parce qu'on sait... Des fois, on ne sait pas trop comment l'expliquer non plus. Puis, c'est un peu vague. On ne veut pas trop rentrer dans les détails parce qu'il était quand même jeune à 3 ans. Mais, tu sais, je pense qu'il voyait quand même... Là, ah oui, aussi, quand j'ai coupé mes cheveux parce que là, j'avais les cheveux longs. Puis, mon plus vieux, lui, son pour s'endormir, il roulait tout le temps mes cheveux. Fait que là, j'étais là, oh, là, je vais raser les cheveux, tu sais, j'avais décidé ça avant que je voulais les donner, donc on a rasé les cheveux, mais on a fait comme un party là, avec des amis, puis c'est mon plus vieux qui m'a rasé les cheveux dans le fond avec le rasoir, fait que on les a quand même amenés avec nous dans ces épreuves-là, là. On faisait pas comme ça en cachette, ils étaient avec nous, puis on essayait de... En anglais, on dit involve, en français,
d'inclure les enfants.
Oui, c'est ça, inclure, exactement, dans chaque étape qui était spécifique, c'est plus émotionnel pour nous, sans qu'ils se demandent, ah, c'est triste, mais on essayait ça, de tourner ça quand même pour que ça soit plus joyeux, comme mon autre chum aussi s'est coupé les cheveux à ce moment-là, ma belle-mère, mon ami. Fait qu'on a vraiment, on essayait de rendre les événements plus marquants ont quelque chose qui, en le tournant un peu plus positivement, moins juste nous, on avait beaucoup de personnes autour pour nous aider aussi. Puis quand j'ai été diagnostiquée aussi, vu qu'on était loin de la famille, puis que mon chum fallait qu'il continue à travailler quand même, il y a beaucoup de gens de notre famille qui se sont mis ensemble. Donc j'avais ma mère qui venait une semaine, ma tante est venue une autre semaine, la famille à mon chum aussi sont venues. Donc, nos enfants, eux, ils trouvaient ça quand même le fun parce qu'il y avait tout le temps des visiteurs. Nous, on n'en avait jamais, tu sais, on voyait pas beaucoup de monde. Fait que là, il y avait tout le temps des visiteurs. Ah, oh, c'est grand-maman qui va être là la semaine prochaine. Fait que ça nous a aidés à comme passer au travers positivement aussi. Puis pour eux, c'était comme plus c'était le fun. Là, il y avait des visiteurs, c'est ça, où ils allaient en voyage en Colombie-Britannique ou, tu sais, c'est comme une petite aventure. Fait que c'est ça. Puis j'essayais aussi de pas trop en parler devant eux non plus là.
Ça t'es incluait dans comme quand tu dis quand tu t'es rasé les cheveux ou quand il y avait des moments plus émotifs, mais tu faisais pas nécessairement exprès non plus pour en parler.
C'est ça
que je comprends.
C'est ça. Tu sais, des fois les adultes on parle de choses puis on pense que les enfants ils écoutent pas vraiment, mais tu sais j'essayais de pas trop en parler devant eux puis moi non plus non. Je veux pas que ça soit le sujet. Je voulais pas que ça soit le sujet de l'heure. Même si c'était dur des fois, ouais.
Ouais, c'est ça. Puis tu disais là, que ta famille reste à Montréal. La famille de ton chum, de ce que j'ai compris, Colombie-Britannique. Là, vous étiez en Alberta.
Oui, exactement.
La façon d'organiser, c'est que vous avez sollicité l'aide des gens un peu partout. Comment vous vous êtes organisé pour synchroniser le tout?
Ben, au début, tu sais, il y a quelqu'un qui est venu. Puis là, le frère à mon chum qui est venu. Puis là, après ça, on s'est comme fait une horaire de gens qui pourraient venir nous aider parce que à ce moment-là aussi, vu que mon système immunitaire était plus bas, je voulais pas envoyer mes enfants à la garderie parce que là, il y a aussi les bactéries ou des virus qui viennent avec la garderie. Donc, tu sais, je pense qu'on n'a même pas eu besoin d'aller demander à des gens. Tout le monde s'est offert, oh, moi, je pourrais y aller cette journée-là. Fait que là, quand les gens ont commencé à dire, oh, on pourrait venir nous aider, ben, on s'est dit, bon, pourquoi pas? T'sais, on va prendre toute l'aide qu'on peut. Tout le monde veut aider d'une certaine façon. Puis souvent, les gens, ils savent pas trop comment. Donc, là, quand tout le monde commence à dire, oh, moi, je pourrais venir cette semaine-là, moi, celle-là. Fait que là, on s'est fait une horaire, là, vraiment, de telle journée habituellement, c'était une semaine à la fois, là, de tel jour à tel jour, ma mère va être là. Fait que, cette semaine-là, j'ai pas vraiment besoin d'aide, mais tu sais, plus en mettons fin août, j'aurais besoin d'aide. Fait que là, il y a des gens qui T'es là, ah, moi, je vais pouvoir venir, Et tout le monde veut venir dans l'Ouest canadien aussi, du Québec. Fait que les autres, c'est bien le fun. Puis, par la suite, là, c'est sûr que, tu sais, on voulait pas que tout le monde arrête de vivre pour ça, mais vers la, en plus, en septembre, là, ma mère, elle a été capable de prendre un petit congé à son travail. Fait que de septembre en décembre, là, il y a juste ma mère qui est venue. Comme ça aussi, ça nous permettait d'avoir une nouvelle routine dans tout ça, puis de savoir, tu sais, que moi, j'avais pas besoin d'expliquer non plus la routine des enfants à tout le monde. On s'était fait un cartable qui expliquait comment que la routine du dodo, puis s'il y avait des gens qui avaient des remarques, ils écrivaient ça là-dedans. C'était quand même le fun. Il y a une semaine que mon père est venu, mais il parle seulement français. Puis là, le père à mon chum était là, il parlait juste en anglais. Mais là, les deux hommes, eux autres, mon père faisait la cuisine, puis le père à mon chum s'occupait des enfants. En tout cas, c'était vraiment le fun de voir tout le monde ensemble pour nous, tu sais. On a été vraiment chanceux avec tout le support qu'on a reçu. Puis, tu sais, de pas avoir... Nous, au début, on avait peur de déranger les gens en demandant, tu sais, de l'aide. Mais comme je disais plus tôt, tu sais, les gens, ils veulent aider, mais ils savent pas comment. Puis, ils veulent pas être trop envahissants non plus. Mais, tu sais, si on est capable de dire qu'est-ce qu'on a besoin, mais là, tout le monde était vraiment... Tu sais, ils voulaient nous aider. Donc, c'est vraiment génial. On était chanceux.
Ouais, vous aviez vraiment un beau groupe de soutien autour de vous, là. Puis je pense que c'est vrai. Ça fait toute la différence, en fait.
Oui, exact. Puis je pense que c'est ça qui nous apparaît un peu plus au début, c'est que quand on a reçu la nouvelle, tu sais, ah, on est toute seule ici, en Alberta, on n'a pas personne. Mais tu sais, on voulait pas changer de province premièrement parce que là, faut tout recommencer dans le système de santé. Là, on avait tout fait les démarches, on était proche d'un gros centre, on était proche d'Edmonton, fait que, tu sais, partir, c'était pas comme une option, là, tout de suite, fait que le fait d'avoir des gens qui se sont offerts comme ça, ça a enlevé un gros poids de nos épaules, là. Surtout à mon conjoint, tu sais, il voulait pas me laisser toute seule avec les enfants, tu sais, j'aurais été quand même capable, parce que le traitement, les premiers 6 mois étaient pas si mal, les effets secondaires, il y avait beaucoup de fatigue, mais j'étais quand même capable de fonctionner, mais c'est pour lui, c'était aussi il avait l'esprit en paix en s'en allant travailler, qu'il y avait j'avais pas toutes les tâches à faire, puis que si j'avais besoin de prendre une sieste, que je prenais ma sieste, tu sais. Mm-hmm. Fait que
excellent. Puis là, de mémoire, t'es revenu, ben là t'es au Québec en ce moment, fait qu'il y a eu une période où que t'as dû faire la transition entre l'Alberta puis le Québec. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de comment ça s'est passé, plus sur le plan médical, là, dans le sens, une fois que vous avez décidé de vous emmener ici, fallait quand même que tes suivis continuent, fallait quand même qu'il y ait, ben c'est sûr, qu'il y ait un certain suivi qui soit fait par un oncologue, par un médecin de famille, etc. Comment tu t'es prise en fait pour faire cette transition-là?
Donc, ben, en fait, c'était bien parce que mon oncologue, chaque spécialiste, après la grève, j'ai été suivie par plusieurs spécialistes. Donc, mon oncologue, mais aussi un cardiologue. Il y avait mon médecin de famille. Donc, eux, ils étaient capables de me guider en Alberta. OK, il faudrait trouver un oncologue. Donc, OK, là, je mettais ça sur ma liste. Je faisais des recherches comme au Québec. Ben, c'est sûr que c'est difficile parce que eux, ils connaissaient pas personne au Québec. Donc, c'est vraiment moi qui fallait faire les recherches pour eux. Puis, donc, j'ai comme du bouche à oreille avec ma famille, avec quelqu'un qui a dit, oh, j'ai un contact pour l'infirmière pivot en oncologie à Victoriaville, parce que j'habite à Victoriaville. Donc, j'ai été en contact avec elle. Elle a été capable de me référer à l'oncologue ici à Trois-Rivières. Donc, ça, c'était réglé, là. Après ça, le cardiologue d'Edmonton connaissait quelqu'un à Montréal, donc le cardiologue m'a transféré directement. Et puis après ça, j'avais besoin de trouver un médecin de famille. Ça, c'est un petit peu plus difficile au Québec. Tu sais, là-bas, t'as le choix, mais ici, c'est des grosses listes d'attente. Et puis je savais vraiment pas comment commencer parce que j'avais pas non plus mon assurance maladie au Québec, j'étais encore en Alberta à ce moment-là, fait que et puis ça prend comme 3 mois avant être en entre-deux là, faut appliquer après 3 mois qu'on arrive dans une province, donc je pouvais seulement appliquer pour mon assurance maladie au Québec en juin. Donc, j'ai trouvé un médecin de famille par du bouche à oreille, par des amis, que j'ai vraiment, vraiment été chanceuse. Et puis, mais par la suite, là, il y a eu comme une période de transition où que j'ai attendu d'avoir mon assurance maladie du Québec. Donc, tu sais, j'étais déjà en contact avec mon oncologue, mais là, on s'était dit, aussitôt en juin, le 1er juin, quand tu vas avoir ton assurance maladie, ben, on va prendre un rendez-vous tout de suite. Puis là, ça a enchaîné les rendez-vous. Mais tu vois, comme avec mon cardiologue, j'ai atterri à Montréal et puis elle m'appelait. J'étais dans l'auto, je m'en allais chez nous, puis elle m'appelait pour prendre un rendez-vous pour le 3 mois dans le fond, un petit peu plus tard dans l'été. Donc, ça a bien été le fait que j'ai été guidée par mes autres spécialistes qui me disaient quoi faire, mais c'est quand même une épreuve à trouver ça, de naviguer comme dans le système de santé ici au Québec. Moi, je connaissais pas beaucoup, puis juste appeler, c'est difficile de juste appeler, t'expliques ton cas, puis là, ils sont comme, OK, là, on essaie d'envoyer mes papiers, mais là, ils sont en anglais, fait qu'il y a des choses qui, des fois, il fallait que ça soit traduit, puis donc, ça a été un peu challenging, mais en même temps, ça s'est bien fait, étant donné, tu sais, que au moins, j'ai eu mon médecin de famille, j'étais vraiment reconnaissante pour ça, parce que là aussi, c'est un peu épeurant pour nous, tu sais, est-ce qu'on va avoir, pour moi, est-ce que je vais avoir un bon suivi. J'avais demandé à mon oncologue de l'Alberta comment vous faites le suivi pour être certain, pour voir si ça correspondait à qu'est-ce qu'au Québec ils faisaient. Et puis, tu sais, la beauté d'un oncologue, c'est qu'ils sont là vraiment pour t'aider, puis ils sont tout le temps disponibles. Fait que j'avais vraiment confiance. Puis après un an de gros traitement comme ça, tu développes un lien. Je sais pas pour toi, Stéphanie, mais tu développes vraiment un lien de confiance, puis ça devient un peu c'est particulier, c'est pas la même relation que tu aurais avec un médecin de famille par exemple. Donc tu sais, si tu as quelque chose, tu m'appelles, les infirmières, s'il y avait une infirmière juste pour lui, donc elle, j'étais en contact avec elle beaucoup, fait que si j'avais des questions, je pouvais toujours les appeler parce qu'après la greffe aussi il y a le faut tout reprendre notre vaccination. Fait que donc, ça aussi, c'était un peu touché. Là. Les filles de la greffe que j'étais suivie là-bas, ils m'ont tout envoyé les documents ici. Là, je donnais ça à mon médecin de famille, à mon oncologue. Puis là, on essaie de tout naviguer dans tout ça. Donc, en tout et partout, ça a bien été.
Bon,
mais c'est ça. C'est une petite étape de plus, là.
C'est drôle que tu parles du lien de confiance, justement. Là, on dévie un peu, là, mais tu sais, le lien de confiance avec notre oncologue. Tu sais, dans mon cas, les rencontres sont assez brèves, là, bien qu'elle prend le temps, là, bon, tu t'assurer que tout est correct. Mais j'ai réalisé qu'il y avait ce lien-là. La semaine passée, j'avais un rendez-vous de suivi, puis je rentre dans le bureau, puis là, c'était pas elle. C'était son résident, tu sais. Puis là, je me suis un peu cambrée, là. J'étais comme, ben, j'ai pas envie du tout, tu sais, de parler à lui. Puis là, c'est en sortant du bureau, j'étais comme, ben, je réalise effectivement qu'il y a un lien, tu sais, qui, même si les rencontres sont brèves, même si on parle pas pendant des heures, évidemment, mais il y a quand même, c'est vrai, il y a un lien qui se crée avec notre oncologue, là, d'où l'importance, là, tu sais, de bien s'entendre, au final.
Oui, exact. Je le rappellerai toujours, moi, quand j'entendais le résultat de mon scan, on est comme dans la petite pièce anxieux, là. Tu sais, est-ce que c'est parti? Puis là, mon collègue, il avait ouvert la porte. Tala! C'est parti! Puis on était comme, une grosse célébration, tu sais. Mais wow. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de spécial. Autant qu'on veut pas trop les voir parce que, c'est ça.
C'est pas toujours associé à des bonnes nouvelles.
C'est ça, exactement.
On les aime à moitié.
Exact, exact. Donc, c'est ça. Puis là aussi, avec rencontrer mon médecin de famille aussi, avoir une autre opinion aussi. Tu sais, là, OK, là, on a commencé à expliquer les effets secondaires de ma greffe. Et puis là, finalement, non, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas eu mes règles, mais moi, j'avais comme... Vu que j'avais eu le traitement de chimio, ça faisait un an qu'il y avait gros de la chimio dans ça. Ça joue un rôle aussi sur nos règles. Fait que j'avais comme pas réalisé. Puis il était là, ben, tu sais, ça fait quand même 2 ans. Donc, peut-être que tu seras en ménopause. Fait que là, c'est vrai, ça, on avait comme pas parlé de ça. Fait que là, c'est bien d'avoir une autre personne qui, comme pour donner son opinion dans tout ça, de revoir tous les systèmes, puis dire, ah oui, c'est vrai, ça, puis on n'avait pas remarqué, tu sais. Donc,
c'était justement ma prochaine question. Ça a été quoi, en fait, l'impact que ça a? Tu sais, là, tu dis, le médecin a dit que tu étais en ménopause. Est-ce que quand tu as su ça, ça t'a vraiment... Tu avais déjà deux enfants, je sais bien, mais tu sais, des fois, quand on se fait enlever un... Comment dire? Pas le droit, mais quand on se fait enlever le
choix.
Exact, oui, c'est le mot que je cherchais. Merci, le choix d'avoir des enfants. Ça doit nous mettre un peu en question. Et que je vais demander, dans ton cas, comment ça s'est passé?
Oui, c'est certain que, comme tu dis au début, quand ils nous ont, tu sais, on parle du cancer au début, là, quand j'ai été diagnostiquée, que je parle, on s'en est pas fait trop parler. Puis, c'est comme pas, il y avait, vu qu'on avait l'abcès, là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Puis, l'impression que j'avais quand j'ai été diagnostiquée au début, c'est comme si tu vivais avec une bombe en dedans de toi, qu'il fallait que faut que tu agisses tout de suite, tout de suite. C'est ça que j'avais comme impression, en tout cas. Mm-hmm. Fait que, on n'en avait pas beaucoup parlé, mais là, après, avant la greffe, c'est là qu'on avait parlé des enfants. Est-ce que vous voulez procéder à la, tu sais...
Ouais, la préservation des œufs.
Oui, c'est ça, exact. Exact. Fait que, merci.
Merci.
Là, c'est là qu'on en a parlé, puis, tu sais, mon chum, ça a comme été automatique. On n'a même pas eu besoin d'en parler. Là, on a deux enfants en santé. Mon corps a quand même été... il a quand même eu gros des étapes, tu sais, des épreuves dans la dernière année. Fait qu'on avait décidé, malgré nous, tu sais, que OK, on va continuer avec le traitement parce que ça aurait repoussé aussi ma greffe de beaucoup, tu sais, qu'il aurait fallu que j'aille en clinique privée là-bas. Donc, ça aurait poussé le processus. Puis on était comme... On voulait comme que ça soit terminé, là, continuer la boucle. Mais en effet, c'est comme par la suite, là, tu sais, quand t'es dedans, tu OK, là, je fais mes traitements, yeah, yeah, yeah. Puis là, mais par la suite, quand le cancer est parti, c'est là qu'on a réalisé, tu sais, que là, mon corps fallait comme réparer les dommages que la chimio, elle avait laissés. Heureusement, J'avais déjà deux enfants, tu sais. Fait qu'on s'était dit, c'est sûr qu'on aurait aimé en avoir un troisième, mais comme tu dis, là, j'avais plus vraiment le choix, dans le fond. Donc, ça s'est quand même bien passé, je pense, parce que j'avais mes deux enfants, mais c'est vrai que c'est un manque, un choix qu'on n'a pas pu faire, qui est un petit peu désolant, mais là, on est bien content. Je pense qu'avec trois enfants, ça serait un petit peu... trop élevé pour moi, anyway. Mais c'est sûr qu'après la chimio, pour moi, en tout cas, ça a été un moment... j'ai comme l'impression... Au début, c'était comme, OK, là, mon corps, il est quand même... On dirait qu'il est plus âgé que qu'est-ce qu'il est. Là. J'avais fini ma greffe, j'avais 30 ans. Là, quand on se fait dire qu'on est en ménopause, dans ma tête, c'est comme, ah, tu sais, mon corps, il est quand même plus âgé. J'ai des... une petite insuffisance cardiaque, c'est que par la greffe aussi. Donc, c'est aussi l'importance de s'entourer de personnes pour en parler aussi, parce que c'est pas seulement le cancer, les traitements, mais après ça, à la suite aussi, que là, c'est pour commencer à vivre le quotidien. Mais tu sais, on vient de vivre une grosse épreuve. Puis là, il y a beaucoup aussi émotionnellement, et tu te remets en question un peu, tu sais. Est-ce que je retourne travailler 40 heures semaine, pas trop passer, m'envoyer mes enfants à la garderie, tu sais. Le cancer, c'est pas juste le traitement, vraiment la suite aussi qu'il faut comme réparer, puis mais s'entourer de personnes qui nous aident à cheminer dans ça aussi, c'est vraiment vraiment important. Et pas juste pour la personne qui j'aime pas ça dire le patient, mais tu sais, la personne qui a été atteinte du cancer, mais aussi la famille. Mon chum aussi, ça a été quand même traumatique de voir que quelqu'un qui aime, qui est toute blanche, puis qui a de la misère à manger, puis tu sais, de se sentir impuissant là-dedans. Donc, c'est vraiment important de s'entourer de personnes, autant avant, après. Puis souvent, les gens aussi, ah ben là, ton traitement est fini, t'es correct là. Mais tu sais, je suis quand même fatiguée le soir. J'ai des petites restrictions que les gens, tu sais, comme la ménopause, je le dis pas, je crie pas sur toutes les toiles, là, que, mais tu sais, ça joue un rôle autant avec mon couple que personnellement aussi, c'est un cheminement à faire, beaucoup
accepter ton nouveau corps, dans le fond, suite à tout ça, là. Toi aussi, tu sais, Stéphanie, quand après la chimio, c'est pas fini, là.
Ben, justement, c'est drôle. Ben, c'est pas drôle, là, mais t'en parles. Puis, c'est effectivement ce que je me disais, là, les derniers mois. Je trouve que même le après, ben, moi, dans mon cas, je trouve que le après cancer est quasiment plus difficile sur le plan psychologique. Tu sais, pendant, t'es là-dedans, là, t'as les rendez-vous. T'es comme, de toute manière, on n'a pas le choix. Fait qu'il faut procéder, il faut faire les traitements, faut éliminer ça, là, cette bibite-là en dedans. T'sais, on n'a pas le choix. Mais après, là, tu te dis, mon Dieu, tu t'es passé. Moi, tout a été tellement vite que tu réalises pas tout ce que t'as vécu. Tu sais, au final, puis là, t'arrives à la fin, c'est fini. OK, là, t'es content, t'as plus le cancer, t'es en rémission. Mais psychologiquement, je trouve que je parle pour moi, là, mais je trouve que les séquelles sont importantes, tu sais. Puis je pense que, comme tu dis, c'est vraiment important de continuer à bien s'entourer, de pas hésiter à en parler, parce que c'est pas vrai qu'une fois que tout est fini, que c'est une fois que les traitements sont terminés, que c'est fini. Non, je pense que même si au niveau, parce que j'ose espérer qu'un jour ça va, les effets psychologiques vont s'estomper, puis que ça va vraiment être chose du passé, mais je pense que ça va nous suivre, tu sais, toute notre vie, puis on va apprendre, comme tu dis, à vivre avec les effets. Oui, pour certains, ça va être des effets secondaires physiques, mais pour la plupart, je pense que ça va être des effets secondaires, tu sais, psychologiques, sur lesquels on va devoir travailler. Puis non, ça me parle beaucoup ce que tu dis.
Définitivement. Puis tu sais aussi, quand on se dit là, après 2 ans, tu sais, ma vie, elle recommence, là, je travaille temps plein, mais en même temps, je trouve ça important de pas perdre en tête, OK, ça peut arriver encore, on est jeune, mais tu sais, on sait jamais qu'est-ce que demain va nous réserver, fait que vraiment apprécier les petits moments de la vie ou seulement aussi, tu sais, ralentir. Exactement, c'est ça le mot qui est.
Oui.
Le samedi matin ou le soir, c'est pour nous, là, les enfants, là, on est rendu avec l'école et tout, mais juste de prendre un temps d'être en famille, là, on dit family hug, là, tout le monde se donne un gros câlin, mais tu sais, vraiment juste de, comme tu dis, tu peux passer au travers, tu veux l'oublier, mais en même temps, je veux avoir appris quelque chose de tout ça. Tu sais, je me dis, OK, vous autres, les personnes avec qui je travaille, admettons, ah, ben là, on fait quoi après la job et tout. Mais moi, vraiment, c'est ma famille que, tu sais, je serais peut-être pas toujours là, tu sais. Je parle pas que je suis pas négative, mais tu sais, c'est important de garder pour moi, d'avoir appris quelque chose de ça, de pas juste tourner la page, c'est fini. Je veux quand même que quelque chose de positif revient de ça. Puis, c'est pour ça que j'ai dit oui au balado, parce que dans le fond, je trouve que c'est important. Des fois, quand on est jeune, il y a pas beaucoup de monde dans notre entourage là, qui a vécu cette épreuve-là. Mais tu sais, je pense que pour moi, fallait que je le vive, parce que peut-être que je serais jamais revenue au Québec, tu sais, proche de ma famille, jamais ça dans l'Ouest. Mais tu sais, ça remet aussi les valeurs un peu à la bonne place, là. C'est qu'est-ce qui est important pour nous. Ça nous fait refléter beaucoup, surtout, t'es en traitement, t'as comme 4 heures à tuer, là. Tu penses à quoi? Fait que, tu sais, ça nous fait comme, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif, tu sais, comme dans tout événement, là. Donc, je pense que pour moi, c'est important de garder ça en tête aussi, que je suis chanceuse, en fond, d'être en santé.
Ça fait. Et un énorme merci, le monsieur, d'avoir pris le temps de vous parler aujourd'hui. Là, c'était très enrichissant. Merci de ta transparence. Là, c'était vraiment très intéressant. Et si les auditeurs ont des questions sur comment accompagner une personne atteinte d'un cancer du sang ou ont besoin d'aide pour naviguer dans leur propre expérience avec un diagnostic, je vous encourage à contacter le chef des services de la communauté de votre région. Donc, visitez lecancerdusang.ca pour communiquer avec nous. Merci à la Fondation TELUS pour un futur meilleur d'avoir généreusement parrainé l'épisode d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.
Merci d'écouter la série de balados « Parlons des cancers du sang » de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Vous pouvez nous trouver partout où vous vous procurez vos balados préférés. Assurez-vous de vous inscrire et de laisser un commentaire. Si vous avez des idées de balado, n'hésitez pas à nous en faire part. Envoyez votre courriel à canadainfo@commercialll.org. La Société de leucémie et lymphome du Canada se consacre à financer des recherches de pointe et à appuyer les personnes touchées par un cancer du sang. Pour accéder à des ressources comme des fiches pratiques et des webdiffusions, visitez cancerdusang.ca.